enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Émilie Chaudet.
Il est plus précisément question de Pékin, des projets de Pékin, mais en Asie centrale et au Moyen-Orient.
Donc. Voilà, au Moyen-Orient au sens large du terme. Notre invité Michel Rimbaud, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été ambassadeur, notamment dans le monde arabe. Alors on va voir effectivement le regard de Pékin, c'est un regard un peu inusuel. Et vous l'abordez dans votre réédition Tempête sur le Grand Moyen-Orient, c'est le titre de votre ouvrage qui vient de sortir aux éditions Ellipse. C'est une seconde édition enrichie, mise à jour, et alors c'est assez remarquable, mise à jour au 31 décembre 2016, on imagine le travail qu'il y a derrière. Alors la Chine a toujours poussé ses avantages d'une façon précautionneuse, sur la côte Asie-Pacifique pour des raisons économiques, lors évidemment de ses réformes des années 80-90-2000, puis vers l'Asie du Sud pour entourer l'Inde et prendre pied sur le littoral de l'océan Indien, et puis aujourd'hui elle veut s'installer profondément à l'intérieur du continent, et il faut rappeler d'ailleurs que dès la mort de l'Union soviétique, les ambassadeurs chinois et les émissaires étaient allés tout de suite dans les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale pour nouer des relations, compte tenu évidemment de la fragilité en Chine de l'extrême ouest musulman, en grande partie musulman, au moins à moitié musulman, le fameux Xinjiang. Et puis, la Chine a œuvré, on va en parler, au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, pour le contrôle des frontières, en fait surtout pour lutter contre les islamistes radicaux. Est-ce qu'il y a une vraie politique globale de Pékin à l'égard, on va dire, de son ouest profond?
Ah oui, certainement. Il y a certainement une politique, une stratégie qui est fondée d'ailleurs sur une alliance stratégique avec la Russie, qui a été engagée au temps du président Eltsine dans les années 95-96. C'est Eltsine qui était allé à Pékin pour proposer un partenariat stratégique aux Chinois. Et donc, les Chinois avaient dit oui. Et ça a enclenché, ça a été au fond le début de ce qu'on appelle l'organisation du traité de sécurité collective qui a été signé entre la Russie, la Chine et quelques pays d'Asie centrale, le Kazakhstan. Et puis après, ce sera l'embryon de l'organisation de coopération de Shanghai qui existe toujours et dans une deuxième rebond, l'organisation du bloc des BRICS, donc la Chine, l'Inde, la Russie, le Brésil et l'Afrique du Sud. Mais il y a une vraie politique. Je crois que le grand projet actuellement, c'est les nouvelles routes de la soie. Alors c'est très poétique, ça reprend un vieux rêve chinois. Mais je crois que, moi je résume ça en disant que c'est, je l'écris d'ailleurs, que c'est en quelque sorte la version chinoise du Grand Moyen-Orient de George Bush. Comme on le sait, le Grand Moyen-Orient de George Bush va bien loin du Grand Moyen-Orient. Il va de la Mauritanie aux Philippines, même aux Philippines, à l'Indonésie. Il inclut tout le monde arabe et le monde musulman. Et dans toute une grande largeur, 60 degrés de latitude, à peu près de l'Équateur jusqu'à Moscou, quasiment, du Caucase au moins. Et donc, l'ambition du projet des routes de la soie est immense. Il est fondé, je crois qu'on parle de crédit de 900 milliards de dollars, c'est tout à la chinoise, avec deux routes, une route terrestre, une route maritime, une bretelle vers le Pakistan que vous évoquiez à l'instant. Et donc, avec plein de projets, ça inclut 74 pays, et donc d'Asie, d'Europe même, et puisque ça rejoint jusqu'à l'Europe de l'Ouest et d'Afrique.
On peut parler de volonté de désenclavement?
Une volonté, oui. Si un pays comme la Chine peut être désenclavé, c'est un peu comme le continent qui était isolé quand il y avait du brouillard sur Londres.
L'empire du milieu.
Ah oui, s'il y a un pays, je le dis aussi, et je le répète, que s'il y a un pays qui se considère comme le centre du monde tout à fait naturellement, c'est bien l'empire du milieu.
Oui,
c'est la Chine.
Oui, non seulement il est au milieu du monde, mais il est au milieu du monde. Vous avez un concurrent assez redoutable en la matière, c'est quand même les États-Unis qui ont un côté aussi empire du milieu.
Oui, c'est vrai, mais ils ne sont pas au milieu du monde. En géopolitique, ils sont dans les terres périphériques.
Oui, puis
c'est pas pareil.
C'est une île.
Les empires de la mer. Hein. Donc, Grande-Bretagne, États-Unis, Japon, tout ça sont les empires de la mer, donc ce sont les terres périphériques, et d'où leur ambition de dominer le monde par voie maritime. Les Chinois, cette double ambition, pas seulement sur la terre, mais également, là, il y a une voie maritime qui longe le sous-continent indien, au sud de l'Asie, et qui se répartit à un moment donné en deux branches, l'une qui va vers la Méditerranée et l'autre vers les rivages orientaux de l'Afrique.
On a vu d'ailleurs des bateaux ou des bâtiments plutôt chinois traverser ou plutôt longer, emprunter le canal de Suez, et ça j'y pense à l'instant, ça, la seule grande expédition maritime des Chinois au 15e siècle, l'amiral. Et alors, ils étaient allés dans l'océan Indien. D'ailleurs, ils ne sont pas allés tellement plus loin. Je veux dire, c'est très rare qu'ils aillent vers la haute mer.
C'est la première fois depuis très très longtemps où il y a une expédition maritime. On notera l'intrusion des Chinois en Méditerranée, notamment par le biais du conflit syrien. Je ne sais pas si on va en parler, mais c'est quand même nouveau. En fait, il y a ce pacte et cette alliance entre la Russie et la Chine qui s'est nouée, notamment à propos de la Syrie. C'est ce qui a attiré un peu la Chine vers les dossiers du Proche-Orient, et parce que les Chinois ne veulent pas se laisser enfermer dans des dossiers régionaux. C'est une grande puissance mondiale. C'est quand même, en parité de pouvoir d'achat, c'est devenu la première puissance mondiale quand même depuis 2 ans.
Alors c'est une image un peu triviale, Michel Rimbaud. Je rappelle que vous avez été ambassadeur. C'est le fait que quand même le Moyen-Orient, au sens très large du terme, il faut toujours définir les contours du Moyen-Orient, sinon on n'a rien dit, mais c'est quand même Moyen-Orient la seule, excusez-moi l'expression, pompe à essence de la Chine.
Oui, mais vous savez comment Trump aura cette vision encore, comme l'avait Reagan. Il faut rappeler la carte du monde selon Reagan dans les années 80. C'est le fondateur du néoconservatisme, donc cette doctrine qui est au pouvoir souvent en Occident, dans beaucoup de pays. C'est pas la peine d'aller bien loin pour le trouver. Et aux États-Unis également. Donc les néoconservateurs, c'est à la fois démocrate, républicain, ce qu'on appelle l'état profond américain. Et en fait, le fondateur politique en est Reagan. Pas le fondateur ni religieux ni idéologique, mais le fondateur politique, c'est Reagan, avec sa compère Madame Thatcher, dans les années 80. Et dans les années 80, c'est lui, il y avait une carte du monde selon Reagan qui était caricaturale, où précisément la péninsule arabe et où l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe étaient représentés par un énorme baril de pétrole. Alors je crois que Toyota était symbolisé par une Toyota ou quelque chose comme ça.
Ça permet de simplifier le raisonnement quand même. À ce propos d'ailleurs.
C'était la carte du monde selon Reagan. Ça faisait ricaner un peu tous les experts parce que c'était la façon dont ils imaginaient au fond le monde.
Et puis il y avait les
soviétiques, il y avait les criminels avec un homme au couteau entre les dents et puis avec des fusées brandies dans tous les sens.
Et eux-mêmes avec un chapeau haute forme et un cigare.
Oui, c'est ça.
Ils n'ont pas allé jusque-là. Alors, sérieusement, le roi d'Arabie Saoudite.
Mais c'était sérieux, la carte du monde selon Reagan. C'est sérieux. C'était bien la vision de Reagan.
Le roi d'Arabie Saoudite revient d'ailleurs justement de Chine où il a été reçu lors d'une grande tournée au Japon, en Malaisie, en Indonésie notamment. Alors, pourquoi est-ce que les Chinois s'intéressent aux pays arabes? On avait l'impression il y a quelques années qu'ils se cachaient lors des votes au Conseil de sécurité de l'ONU un peu derrière les Russes.
Oui, mais ils se cachent de moins en moins. Ils ont une autre. Il y a eu un partage des tâches en quelque sorte. En réalité, ils ont été très longtemps occupés par la croissance économique, devenir la première puissance au fond. Ça a été successivement l'atelier du monde, l'usine du monde, c'est devenu le banquier du monde en même temps. C'est une puissance qui est pratiquement inattaquable par sa masse démographique, sa masse territoriale, etc. Mais je ne crois pas qu'ils se cachent. Ils ont une ambition qu'ils découvrent de jour en jour, une ambition mondiale de stratégie. Et leur présence dans le dossier syrien, c'est le dernier des doubles veto russo-chinois remonte à deux semaines, quelque chose comme ça. Il y en a eu 6 ou 7 en l'espace de quelques années. Je crois que ça symbolise la volonté de la Chine de ne pas s'en laisser compter par les États-Unis notamment et les Occidentaux. Je crois que c'est ça.
On peut dire le
point de basculement est en 2011. On ne met pas de veto encore sur l'affaire de la Libye et on accepte que ça soit, une opération dite humanitaire. On voit que ça commence avec des bombardements de l'OTAN dès le lendemain. C'est pas prévu. Et à l'époque, il y a un diplomate chinois, je crois, en poste à Paris, qui avait dit, on l'interrogeait, quelle était la réaction des Chinois. Il disait, il n'y aura plus jamais de résolution à la Libyenne. Il n'y en aura plus jamais sur aucun pays.
La faute
et donc en Syrie, quelques mois après, il y avait le premier des doubles veto. Hein. Je pense que ça a été une humiliation pour la Russie et pour la Chine, je crois.
La Syrie nous aura envoyé un censeur.
Il faut bien comprendre, oui.
C'est comme ça. Et donc, juste volonté de désenclavement, ils mettent beaucoup de moyens, juste d'un mot, mais vraiment d'un mot.
Tous les moyens qu'ils mettent dans la volonté des enclavants.
Ben en fait,
une banque asiatique de développement. C'est donc tous les crédits, les chiffres qui circulent. On pourrait en rajouter des données. Mais en plus, il y a une volonté politique, énergétique, qui est assez fondée. Donc, sur ce pilier russo-chinois, qui est le fondement des BRICS et de l'Organisation de coopération de Shanghai.
Merci beaucoup. On renvoie à votre ouvrage, Tempête sur le Grand Moyen-Orient, aux éditions Ellipse. Encore une fois, c'est une seconde édition mise à jour très récemment.